Bonjour à chacune, bonjour à chacun. Effectivement, nous sommes une famille et une famille, ça peut être funky, ça peut être dansant. C'est aussi ça que nous aimerions transmettre avec cette série. Effectivement, nous sommes dans une famille de sang, nous sommes dans une famille aussi spirituelle et c'est ce que nous creusons un peu dans cette période de Noël et dans cette période aussi de séparation où on n'est pas tout le temps ensemble, vous qui êtes derrière l'écran, nous qui sommes ici, aussi juste Olivier à Nyon, on est ensemble, même si nous sommes un peu séparés. Et cette prédication, je l'ai intitulée « Servir ma famille, tu rigoles », parce que c'est pas si évident que ça. Je vais baser toute ma prédication sur ce verset, et puis je vous lance même déjà un petit défi. Si vous arrivez à le savoir par cœur à la fin de la prédication, ce serait carrément top. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Vous savez qui ce qui parle? Certain Jésus. C'est certain Jésus qui nous donne cette parole-là pour nous encourager et nous faire aller de l'avant. On retrouve notre visée missionnaire que nous avons dans notre Église, cette visée de partager l'amour du Christ avec chacun. Et je crois que là, on a une des clés de comment nous voulons vivre cette visée missionnaire. Ça commence par les relations qu'on a entre nous au sein de notre famille. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est observé, hein, en tant que croyant, en tant que chrétien. On est même observé, je dirais, deux ou trois ou quatre fois plus que la moyenne. On regarde comment on fait, on regarde comment ça se passe entre nous, et puis on s'attend à un niveau de relation un peu plus élevé que dans la moyenne. Jésus en est conscient. Jésus en est conscient et il nous donne cet immense élan pour aller de l'avant. Et puis je crois que si on devait définir la fraternité, il n'y a qu'un seul moteur à la fraternité, c'est l'amour. C'est lui, l'amour, qui va nous guider, qui va nous inspirer, qui va nous donner de l'élan. Et cet amour fraternel, c'est ça qui va être regardé en premier lieu comme témoignage. C'est-à-dire que comment on manifeste la présence de Dieu parmi nous. C'est pas rien, hein? C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que vous saurez que vous êtes mes disciples. Puis je crois que, je l'aime bien cette photo, j'ai déjà montré la dernière fois, je crois que c'est aussi quelque chose que nous pouvons expérimenter très positivement à de nombreuses reprises dans notre communauté. Ce n'est pas l'idée de se, comment dire, tirer les bretelles puis de se lancer des fleurs, mais c'est de se dire qu'effectivement, on peut expérimenter ces liens d'amour entre nous et ces liens d'amour qui nous font du bien, qui nous permettent d'être dans la vie des autres personnes, des personnes plus, je dirais, enracinées que d'autres personnes. Et ça, c'est une grâce. Le moteur de la fraternité, c'est l'amour les uns pour les autres. On se demande souvent comment témoigner, en étant attentif à nos relations à l'intérieur de l'Église, sûr qu'on va témoigner au loin. Parce que si on dit témoignage, on dit aussi contre-témoignage. Et là, j'ai été frappé par une exposition qui a eu lieu dernièrement. J'ai encore eu le droit d'aller la regarder. C'était une exposition d'un photographe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Gilles Caron, qui était exposé à la galerie Focal à Nyon et puis au château de Nyon. Et puis, c'est un photographe qui, dans les années 60 et 70, a sillonné les terrains de conflit à travers le monde. C'est un photographe qu'on appelle photoreporter, photographe de guerre. Et puis, à plusieurs reprises, il nous offre quand même l'image inverse de cet amour les uns pour les autres qui devrait habiter les chrétiens. Et puis là, je vous ai donné peut-être des éléments les plus récents de notre histoire malheureuse en tant que chrétien. C'est une jeune femme qui se trouve dans des décombres en Irlande du Nord dans les années 70. Et puis là, force est de constater que l'amour les uns pour les autres n'a pas été une réalité. L'amour les uns pour les autres a été une catastrophe qui les a amenés à s'affronter militairement l'un contre l'autre. Témoignage et contre-témoignage. C'est une réalité. Et puis, la dernière fois, on a aussi pu voir qu'à travers l'épisode biblique des frères Caïn et Abel, Jacob et Ésaü, Joseph et ses frères, on se rend compte que même dans la Bible, elle ne nie pas cette réalité-là, que l'amour les uns pour les autres au sein des familles, ce n'est pas gagné. Ce n'est pas gagné et ça ne le sera jamais. Alors, c'est quoi cet amour dont il est question ? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Il nous faut creuser ce sillon de l'amour. Et ce n'est jamais évident de parler de l'amour. On essaie plutôt de le mettre en pratique. Mais ce matin, je m'y lance un peu parce qu'il nous faut creuser ce sillon. Car très, très vite, il se referme. Et puis, j'ai l'impression de, chaque jour, remettre l'ouvrage sur le métier d'une certaine façon. Parce que rien n'est acquis dans ce domaine-là. Tout est toujours à recommencer. Tout est toujours à recevoir une fois de plus. On ne peut pas se dire, là, c'est bon, j'ai fait le compte et puis le tour est joué pour X années. C'est bon, j'ai investi pour un bon petit moment. L'amour, Francesco nous l'a dit la semaine passée, c'est une décision. Une décision qui provoque des actions, en l'occurrence celle du Samaritain d'aller aider et sauver celui qui était au bord du chemin. C'est une décision, mais ce n'est pas la décision de passer la bague au doigt à tous vos frères et sœurs dans la communauté. Ça, normalement, c'est réservé à une seule personne que vous avez choisie, certainement avec l'aide de Dieu, et avec qui vous avez passé le reste de votre vie. Non, dans notre société qui demande de beaucoup ressentir, de ressentir beaucoup d'amour, je crois que l'amour qui nous unit dans notre famille, ce n'est pas le fait de chaque fois se sentir porté vers l'autre. C'est la décision de se dire, oui, j'assume mon statut de faire partie de cette famille-là, et quand je décide d'assumer ce statut-là, je regarde les autres différemment. Peut-être qu'on va des fois rien ressentir, peut-être qu'on va même ressentir des fois des sentiments négatifs, mais par contre, on a décidé d'appartenir à la famille de Dieu. Et dans cette famille de Dieu, notre élément clé, c'est l'amour. Notre moteur, c'est l'amour. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Il y a un exemple frappant qui précède quasiment directement le verset clé que nous méditons ce matin. Et cet exemple frappant, c'est un épisode de la vie de Jésus avec ses disciples que l'on appelle le lavement des pieds. Je ne vais pas vous le lire directement dans le texte, on le trouve aussi dans le texte de Jean 13, c'est le début du chapitre. Le verset que je vous ai lu, c'est le verset 35. Tout le début du chapitre est consacré à cet épisode unique où, avant que Jésus ne soit livré et puis mis à mort, il réunit ses disciples autour de lui et, dans le silence quasiment, il leur propose de vivre un moment où il se met, lui, le maître, le roi, nous venons de le chanter, il se met au service de ses disciples, dans un geste d'amour fraternel. Et qu'est-ce qu'il fait pour illustrer cette mise au service ? Il met en rond ses disciples, c'est un peu comme ça que je m'imagine la situation, et il passe avec une bassine auprès de chacun d'eux, à genoux devant eux. Il délie leurs chaussures et il commence à laver leurs pieds, qui étaient certainement sales. Il y avait beaucoup de poussière à l'époque, il y avait beaucoup de déplacements à pied, il y avait beaucoup moins de métro et autres trains bondés. On se baladait dans les rues étaient sales et les pieds souvent étaient très sales. Et là, Jésus, le roi des rois, dans son exemple, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met à genoux devant ses disciples, il délie leurs chaussures et il lave leurs pieds. Alors j'ai choisi cette image d'illustration là, qui vient certainement des icônes type arménien. Et puis on se dit, c'est très beau, et puis un peu comme l'illustration qu'on a choisi pour illustrer notre culte ce matin, c'est très beau, mais ça met un peu à distance. On se dit que c'était pour l'ancien temps, que maintenant ça ne nous concerne plus vraiment. Puis j'en ai quand même trouvé une autre qui nous plonge, c'est le cas de le dire, peut-être un peu plus dans la réalité. De se dire que là, on pourrait se retrouver dans cette situation où on lave les pieds de quelqu'un d'autre. On lave les pieds d'un frère, on lave les pieds d'une sœur en Christ. Puis en préparant le culte, j'ai discuté avec 2-3 personnes de cette réalité. Est-ce qu'on l'a déjà vécu ou pas ? Personnellement, je ne l'ai encore jamais vécu, donc je l'avoue. Mais juste de se l'imaginer, pour toutes les personnes que j'ai interrogées, ce n'était pas évident. Pas évident de se dire qu'on va vivre ce moment-là. Et pourtant, si on y réfléchit bien, Est-ce qu'il faut des compétences académiques et universitaires pour commencer à laver les pieds de l'autre? Est-ce qu'il faut un savoir-faire particulier pour se dire je vais défaire le nœud d'une chaussure, enlever la chaussette, plonger le pied dans l'eau et le laver? Est-ce qu'on a besoin d'un savoir-faire particulier à ce niveau-là? On a la réponse, hein, ce n'est pas vraiment le cas. Et pourtant, ça vient nous chercher profondément. Preuve que ça vient nous chercher là où l'amour travaille, c'est-à-dire dans notre être tout entier, dans notre savoir-être finalement, que l'on est là appelé à mettre en œuvre. Vaincre certaines résistances, vaincre certaines distances pour se rapprocher de l'autre jusqu'à le toucher. Et si vous voulez encore une couche supplémentaire, ne vous inquiétez pas, la Bible nous offre encore une couche supplémentaire. On est dans la première épître de Jean au chapitre 3. Pardon. Voici comment nous savons ce qu'est l'amour. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons quoi ? Donner notre vie pour qui ? Pour nos frères et sœurs. On descend encore d'un cran, hein, dans l'intégration familiale. Voici un exemple. Ça tombe bien, on est un pays pauvre. Quelqu'un est riche. Il voit un frère ou une sœur qui est dans le besoin et il ferme son cœur. Est-ce qu'on peut dire qu'il aime Dieu? Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. Et là, on retrouve exactement la même pointe que dans la parabole du bon samaritain, où Jean, et puis là, on se rend compte une fois de plus de l'unité de la parole, hein, qui est extraordinaire. Jean, qu'est-ce qu'il fait là? Il lie l'action envers le prochain, l'amour envers le prochain, à quoi? À l'amour de Dieu. Si vous fermez votre cœur par rapport au prochain qui est dans le besoin, en l'occurrence, c'est l'exemple qu'il prend, mais on pourrait élargir les exemples, la question qu'il pose, c'est est-ce qu'il n'aime pas le prochain? Est-ce qu'il aime Dieu? L'amour du prochain, l'amour de Dieu sont liés de manière extrêmement forte. Ils sont liés de manière qu'on ne peut pas les délier. Ça se mélange. L'un implique l'autre et vice-versa. Si on voit un frère dans le besoin et qu'on ne ouvre pas son cœur, est-ce qu'on peut dire qu'on aime Dieu? Sacrée question. Hein? Sacrée question. Et pourtant, le texte de Jean nous dit que le lavement des pieds a lieu avant la passion. Et c'est très intéressant de voir dans ce chapitre 13 de Jean à quel point cette belle parole de l'amour les uns pour les autres, elle est encadrée par deux épisodes qui sont extrêmement interpellants. Ce verset, donc, nous méditons depuis le début de cette méditation, prédication. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. C'est un commandement de Jésus, c'est une demande de Jésus pour nous. Et ce qui précède immédiatement ce commandement de Jésus, c'est l'annonce que Judas va le trahir. On a mieux hein, comme illustration de l'amour les uns pour les autres. On a mieux comme illustration de se dire là, je suis en train de mettre en pratique cet amour que tous allez voir. Et juste après, vous savez ce qui se passe? Il y a l'annonce que Jésus fait à Pierre que celui-là va aussi le trahir et le renier dans quelques jours. Et puis ça m'a interpellé, je me dis, mais punaise, j'ai déjà un peu assommé toute l'Église la première fois en disant que dans la Genèse, les relations familiales, c'était compliqué. Je vais plutôt essayer d'être encourageant pour la famille. Et là, je tombe de nouveau dans la parole sur cette réalité-là, que cette radicalité de l'amour et cette exigence de l'amour, elle se heurte, et puis je n'ai vraiment pas fait exprès de voir ces deux épisodes-là, à la dureté de nos cœurs, j'ai envie de dire. Je ne sais pas trop comment résumer autrement, mais elle se heurte en tout cas à la difficulté de mettre en pratique cet amour-là. Difficulté qui ne veut pas dire renoncement, mais qui veut dire prendre conscience fermement de la complexité de la situation. Parce qu'il y a beaucoup trop de chrétiens qui sont frustrés, troublés par le manque de qualité des relations, par les manques X, Y qu'ils peuvent rencontrer dans l'Église. J'ai envie de leur dire, c'est normal. C'est normal. Même les plus grands, Pierre, Judas, les disciples proches du Maître, ont dû passer par là. Simplement, ils ont essayé de dépasser cette réalité. Ils ne sont pas restés scotchés là, mais ils l'ont expérimenté dans toute sa difficulté. Parce que quand on lit passage comme celui-ci, de donner sa vie pour ses frères et sœurs, ça n'a rien d'évident pour nous, on préfère le mettre à distance. Par contre, en essayant, c'est sûr qu'on va échouer, mais c'est sûr qu'on sera dans la bonne direction également. Alors prenons en compte cette période complexe. Judas, Pierre, toute la passion du Christ, et c'est dans ce cadre-là qu'il annonce ce commandement d'amour, on peut le prendre pour nous comme étant des motifs d'encouragement paradoxalement. Des motifs d'encouragement de ne pas nous laisser stopper par les épreuves, mais de continuer de regarder de l'avant, parce qu'on ne parle pas assez de ces difficultés-là. On parle toujours un peu comme d'un espèce d'Eldorado qui devrait nous arriver en tant qu'Église. Ce n'est pas un Eldorado, hein. L'amour, ce n'est pas un Eldorado, c'est plutôt quelque chose qui s'éprouve à travers le temps, à travers les expériences, bonnes et mauvaises. Et puis, il y a quelqu'un, lorsque j'avais, lors de l'expérience des 30 jours de prière, demandé « Mais ça signifie quoi pour vous, l'amour entre frères et sœurs ?» Il y a quelqu'un qui m'a répondu en disant « Ce qui reste difficile, c'est l'exhortation que je viens de vous lire, de 1 Jean 3,18. S'aimer non pas en parole seulement, mais en action et en vérité. C'est-à-dire non pas dans ce qu'on peut croire et penser, mais essayer de le mettre en pratique. » Alors, effectivement, on doit aller au-delà. Et il y a deux bonnes réponses pour le fait de devoir aller au-delà. Le premier, et puis ça j'aime toujours bien dans la parole, c'est que ce n'est pas nous qui décidons avec nos sentiments si on y va ou bien pas. Si dans notre liberté royale et extraordinaire qu'on est appelé à mettre à l'épreuve ces jours-ci, on y va ou on n'y va pas, le chrétien, il ne fonctionne pas exactement comme ça. Le chrétien, il fonctionne en obéissant à ce que Dieu ou Jésus lui demande. Et là, pour Jésus, c'est clair. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Ce n'est pas une option qu'il nous laisse. C'est une direction qu'il nous donne et c'est une demande qu'il nous fait, à moi, à nous tous, d'aller dans cette direction-là. Et s'il nous fait la demande, et ça c'est toujours la même chose avec la pédagogie divine, c'est qu'il nous croit capable de la vivre. Il ne nous fait pas une demande pour exprès nous mettre quatre pieds sous terre puis nous dire « je t'avais bien dit que tu n'y arriverais pas ». S'il nous fait une demande, c'est qu'il nous donne l'énergie et son esprit pour aller dans cette direction-là. Et là, c'est une bonne nouvelle, parce qu'il est avec nous, il nous prend avec nous, et il va nous guider sur ce chemin-là. Alors, on peut essayer d'aller sur ce chemin-là. Alors, la première chose que j'aimerais nous dire, c'est que vivre cet amour, comme on l'a vu avec le lavement des pieds, ce n'est pas avant tout un savoir-faire, mais c'est avant tout un savoir-être. Alors, demandons à Dieu qu'il travaille notre cœur pour qu'on puisse poser des actions. On en a déjà parlé beaucoup, hein, ouvrir ma porte à un voisin, une voisine, prendre des nouvelles d'un frère ou d'une sœur. On les connaît finalement, toutes ces actions qu'on peut faire pour creuser ce sillon de l'amour. Alors, allons-y avec l'énergie que Dieu nous donne. Puis, je fais aussi un petit gag parce que hier, je suis mis au bricolage un élément que j'adore beaucoup, enfin, que j'aime beaucoup. Oh là là. Tout ça pour vous dire que j'ai médité effectivement toute la semaine sur cette question de servir ma famille. Et puis là, samedi, je me suis retrouvé piégé à devoir effectivement servir ma famille. Et ça m'a un peu coûté parce que le bricolage, ça ne me concerne absolument pas. Pour moi, c'est un véritable effort que de devoir bricoler, de devoir faire des trous dans le mur, que de devoir, là en l'occurrence, poser un espèce d'autocollant dans toute ma cuisine pour que ce soit beaucoup plus joli. Et puis lorsque j'ai dit jeudi ou vendredi que j'allais prendre ma journée de congé à mon épouse pour l'accompagner dans ce travail-là, qui elle aime beaucoup faire ce genre de choses, elle m'a dit « mais ça va, t'es bien, tu veux pas aller skier ?» Je dis « non, je crois que j'ai sur le cœur que voilà, je devais t'aider aujourd'hui. » Puis elle me dit « ah, ça devait être ton thème de prédication qui commence à descendre et puis qui commence à devenir réalité en toi. » Servir ma famille, c'est comme s'il devait y avoir un petit type d'effort, un petit filigrane d'effort là derrière. C'est une réalité et je crois que c'est aussi notre réalité dans le service que nous avons pour l'Église. Servir l'Église et l'amour les uns pour les autres, c'est aussi pour nous ici à Nyon une priorité que de pouvoir travailler de bonne harmonie et en bonne harmonie avec nos frères et sœurs catholiques, réformés, jeunesse en mission, anglicans, ceux de la Westlake, ceux de l'église de Réveil à Dullier. On est 7 églises qui essayons le maximum du temps de travailler main dans la main. Et là, je crois aussi que ça a l'air de rien, ces efforts qui sont faits là, ces relations qu'on essaye de tisser. Mais je crois que là aussi, c'est une manière pour nous, ici dans cette ville, d'essayer de porter témoignage sur la qualité des relations qui nous unissent les uns aux autres. Il y a Guy Jotison qui est en face de moi, qui a servi longtemps dans cette pastorale. On a repris le flambeau, toujours avec cette même conviction que l'amour qu'on aura les uns pour les autres au sein de la famille de Dieu élargie, ça compte. Et puis là, ben, je vous passe juste le mot que plusieurs de mes collègues ont mis sur pied un parcours dans la ville qui s'appelle « À la recherche du secret de Noël ». Et que ce parcours de la ville nous fait voyager à différents endroits de la ville, que ce soit avec des enfants, avec des adultes, on peut le faire. Il y a un poste qui va avoir lieu ici, sur le parvis de la Fraternelle. Et là, on peut se dire, on marche ensemble dans ce que Dieu a voulu pour nous. On marche ensemble en tant que chrétiens, en tant qu'Église, avec un grand E. Alors n'hésitez pas, à la recherche du secret de Noël, quatre étapes qui se passent dans les quatre points principaux de la ville, en tout cas le temple, la colombière, ici, et puis j'ai oublié le quatrième, mais vous allez certainement le trouver, puisque à chaque étape, vous savez où vous devez aller à la prochaine. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. Faisons-le descendre, ce verset, dans notre cœur, jusqu'à ce qu'il produise des actions qu'on n'aurait même pas soupçonnées, que ce soit mettre du carrelage sur votre cuisine ou autre chose. J'ai entendu dire dans mon oreillette qu'il y avait par exemple une famille qui avait fait livrer les pizzas à une autre famille de notre église qui était en quarantaine. Ça peut être une idée. Il y a plein d'autres choses. Un autre témoignage qui m'a touché dans ce que j'ai reçu comme message de votre part, c'est deux sœurs qui ont décidé de venir régulièrement visiter quelqu'un qui était particulièrement confiné. On a tous des idées. On a tous des éléments sur ce qu'on sait être juste à ce niveau-là. Alors faisons descendre pour qu'on ne parle pas seulement en théorie, mais qu'on puisse donner de notre personne à travers ces actes concrets. Et pour vivre cet amour les uns pour les autres, ça passe par nos actes concrets. Alors, je nous encourage à y aller, moi le premier, et tous ensemble. Amen.